Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Chose Commune. Cette semaine, dans le cadre de notre partenariat avec la Allograin et de la programmation spécifique de Génération Climat, nous vous proposons la restitution d'une conférence de Jacques Boulnois, président de la Maison de l'Architecture du Centre Val-de-Loire et intitulée « Paysage, architecture et suprachaleur », consacrée, vous l'aurez compris, à l'adaptation nécessaire de nos architectures et paysages afin que nos villes et les bâtiments qui les constituent deviennent une solution au dérèglement climatique et non plus un problème. Un problème justement technique nous empêche de vous livrer les trois premières minutes de cette conférence. Nous vous en proposons malgré tout la quasi-intégralité pour vous accompagner dans l'écoute de cette conférence. Un document de présentation de Jacques Boulnois, mis à disposition gracieusement, est disponible sur la page de podcast. Merci à tous et à toutes et bonne écoute.
Considérer que les villes, et encore plus les cœurs de ville, ne doivent pas évoluer. D'abord, c'est une notion architecturale, c'est des notions qui sont très très récentes. Hein. C'est les années 80, alors 1980 pour les plus jeunes. Donc on est quoi ? On a 44 ans d'histoire du conservatisme des bâtiments et des cœurs de ville. Ce n'est rien par rapport à l'évolution complète de notre façon d'habiter sur cette terre. Oui, encore, si seulement on aborde également la question énergétique, parce que l'un n'est pas éloigné de l'autre. Hein. Évidemment, si en fonction de quelle énergie on utilise et surtout combien on en utilise, ça change les choses. Mais ça change aussi les choses profondément, d'une manière intellectuelle presque philosophique, c'est notre relation à la puissance. C'est au flux et au processus de décision. Donc, ça ne passera pas par une vision qui est décrite par plein de chercheurs, d'ailleurs, une vision patriarcale de la question énergétique. Ça passera aussi par ce qui se passe exactement aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes là ensemble à discuter des questions et peut-être, pour certains d'entre vous, apprendre à se connaître. C'est le seul et unique moyen de faire avancer les choses. Premier sujet. Alors, vous n'avez peut-être pas lu « Vers une architecture » de Le Corbusier, là un architecte qui a construit de 1903-1905 jusqu'en 1965, date de son décès, et qui a fait un livre qui s'appelait « Vers une architecture ». Et on est au début du XXe siècle et il parle de l'esthétique de l'ingénieur. Ça devait percoler, entrer dans la question architecturale. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est l'esthétique de l'écologue qui nous intéresse pour parler notamment des sols et de l'interaction vivant, puisqu'on va pouvoir trouver probablement des solutions grâce au vivant. En tout cas, si on ne le laisse pas là, on aura plutôt l'inverse. Donc le territoire, dans son acception complète, hein, le territoire, ça va du sous-sol, sol, végétaux, air, etc. Et y compris ceux qui l'habitent. C'est-à-dire, il n'y a pas que nous, il y a aussi tout l'autre vivant. Mais nous, on n'est pas exclus non plus de tout ce vivant. Hein. Le nom m'échappe de ce dessin-là, donc c'est un chercheur australien dans les années 70, donc qui montre un des premiers à avoir montré des interactions très très nombreuses. Et encore, les racines ne sont pas aussi longues qu'elles sont en réalité, hein, parfois des kilomètres. Mais on sait que 90% de la biodiversité se trouve dans les sols, 90%. Donc c'est là que tout se passe. Les fameux mycorhizes sont dans ce sol. Et ce sol, lorsqu'il est vivant, il absorbe de l'eau. Lorsqu'il est vivant, il fait de l'humus. Et tout ça, ça capte du CO2. Ça garde de la fraîcheur, etc., etc. Et le vivant est extrêmement puissant. Il est extrêmement puissant, puisque là, vous voyez, c'est un pied de tomate qui pousse dans un caniveau. Vous voyez, ça peut paraître improbable, mais le vivant est très, très puissant. Là, ça a été pour moi un moment magique pour le vivant. C'est quand... ça ne va pas dans le sens de ce dont je vous parlais à l'instant, mais c'est quand les hommes ne sortaient plus. Voilà. Eh bien, on avait désarmé l'humanité. Il ne passait pas avec ses faucheuses, avec ses outils là, pour tout couper, tout broyer. Et donc, là, d'un seul coup, les graminées reviennent, et notamment, vous voyez, des coquelicots. Donc, d'abord un territoire, une culture, car ce que l'on va faire naître pour s'adapter au changement du climat, en fait, c'est une nouvelle culture. On sera tous les acteurs d'une nouvelle culture qu'on va transmettre aux générations futures. Et évidemment, on n'aura pas tout fait bien, hein, c'est normal, mais on aura apporté quelque chose. Alors, si on n'apporte rien, là, les critiques seront beaucoup plus costauds, évidemment, si ce n'est violentes. Et donc, il y a aussi des gisements, des architectures. Alors ça, c'est une introduction d'un texte qui devait intégrer un livre que je n'ai pas le temps de finir. Et je parle de cette introduction, donc c'était pour la conception bioclimatique. C'est voilà, qu'est-ce qui décide de l'implantation humaine il y a fort longtemps? Ben, c'est tout ce territoire. C'est une observation. C'est-à-dire qu'on Et c'est aussi ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est d'observer. On observe ce qui se passe. Et évidemment, derrière, on a tout le process intellectuel qui se met en route pour définir si on s'installe là ou pas, si on doit... Alors, il y a fort longtemps, c'était plutôt prendre le soleil. Hein. Aujourd'hui, on pourrait se poser la question, c'est plutôt ne pas prendre le soleil, et c'est ce qu'on verra. Et donc, il y a cette observation permet ensuite de faire projet et donc de proposer. Alors ça, c'est un graphe de Météo France, à la fois destiné au GIEC, Groupement intergouvernemental sur l'environnement et le climat, et aussi pour faire la nouvelle réglementation environnementale 2020 qui est maintenant force de loi, pour concevoir nos bâtiments. Et donc... Oui, on peut se dire, la température moyenne, 32 degrés, ça va, c'est chouettos. Sauf que c'est en continu. Et il est attendu, donc pour nos enfants, pour les plus jeunes, nos petits-enfants pour les plus matures, on va dire, c'est 74 jours. Donc, globalement, tout l'été. Le souci, c'est que notre température physiologique de confort, c'est 26 degrés. Au-dessus de 26 degrés, notre corps doit travailler pour nous refroidir. Augmentation du rythme cardiaque, favoriser la transpiration. Et évidemment, il y a des personnes fragiles, les tout petits enfants et les personnes âgées. Et dans la règle, on doit maintenir des bâtiments à 26 degrés. Et si on prend la RE 2020, on doit maintenir ces bâtiments-là sans climatisation, dans la plupart des cas. Les îlots de chaleur, vous en avez entendu parler, c'est-à-dire que le contexte urbain qui à la fois produit beaucoup de chaleur et en même temps l'enferme, le stocke par les murs, le réfléchit par le trop-plein de vitrages avec des films réfléchissants, bah, tout ça fait qu'il y a une élévation de température plus élevée en ville, ça monte, et quand ça redescend en cloche, comme un rideau d'air chaud, eh bien, vous enfermez la ville dans une cloche de chaleur qui s'appelle un îlot de chaleur urbain. C'est étudié depuis fort longtemps par des chercheurs, par des architectes, par des paysagistes. Et l'idée, c'est comment faire en sorte que cet îlot de chaleur, en tout cas, ne résiste pas à la nuit. Vous l'avez déjà vécu. Vous le voyez lorsque vous avez votre thermomètre de voiture et que vous arrivez dans la ville et d'un seul coup, pouf, ça monte. Pof, 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 pof. C'est la barrière de l'îlot de chaleur, et souvent c'est très rapide. Vraiment, ça fait comme un rideau. Et puis, le soir, parfois, vous êtes dehors en terrasse, et puis vous sentez il n'y avait pas de vent, puis vous sentez un petit coup de vent et un petit coup de frais. Et bien là, c'est quand l'îlot de chaleur, la bulle a explosé. Voilà, le système s'est effondré, et d'un seul coup, pouf, le climat revient. Alors, il y a plein de manières que l'îlot de chaleur soit déformé hein, par les vents, mais on va le voir après. Donc, il faut inventer la ville bioclimatique. Mais en fait, ça existe déjà. Et oui, ça a déjà existé. Donc, et c'est ce que l'on verra, pour nous adapter, pour préparer le futur, on n'a besoin d'aucune rupture technologique. On n'a pas besoin d'hydrogène. Je dirais même plus, on n'a pas besoin d'EPR. On n'a besoin que d'avoir... une très bonne analyse de ce qui existe, de ce qui a existé, d'y intégrer ce que l'on sait aujourd'hui et de faire. Ici, l'exemple assez incroyable, c'est Tripoli, donc en Libye. Vous avez le vieux Tripoli au milieu et vous avez, ce qu'on retrouve partout d'ailleurs dans le monde, les extensions urbaines, dont le vieux Tripoli, s'il n'y a plus d'électricité, le confort reste. Si vous prenez la tour qui est à gauche, vous enlevez l'électricité, ce n'est pas vivable. Quand on parle de résilience, cette question-là, on voit bien que ça ne marche pas avec les systèmes constructifs, les systèmes d'urbanisation actuels, qui sont basés exclusivement sur une abondance exagérée d'énergie. Alors, ouais, c'est un peu un hasard, mais on est sur deux pays où c'est pas la grande joie, on pourrait dire. Donc là, nous sommes au Yémen et sur une ville en terre avec plusieurs niveaux. C'est absolument extraordinaire, très resserré. Donc protégé des vents, protégé peut-être un peu du frais aussi parfois et protégé de la chaleur. Et vous avez un peu de chaud sur les façades. Ça renvoie à la fois l'énergie et en même temps peut-être que par système de réflexion, ça éclaire les rues qui sont quand même assez resserrées. Donc on est dans un urbanisme resserré. Il est vrai qu'ici, en région Centre-Val-de-Loire, on ne connaît pas d'urbanisme resserré, un petit peu le long de la Méditerranée. Mais ça veut dire que probablement demain, il faut qu'on réfléchisse à un urbanisme dans nos régions plus resserré pour se faire ombrage. Donc il faut éviter. Vous connaissez sans doute éviter, réduire, compenser, qui est un modèle qui a été mis en place. Et donc éviter, c'est tout en profitant du vivant et d'une belle ville. Alors évidemment, parce qu'on va avoir des gens qui vont nous dire « Oui, mais alors là, pour ne pas modifier la ville, elle sera plus belle du tout. » Non, 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 non. Il est hors de question d'enlever de la joie de concevoir de très belles villes. Mais une très belle ville, selon certains regards. Mais si elle n'est plus habitée, ce n'est plus une belle ville. On est d'accord. Je vais prendre l'exemple d'Orléans, la rue Jeanne d'Arc. La rue Jeanne d'Arc, l'été, c'est juste invivable. Donc, à quoi bon ? Donc, la ville bioclimatique, c'est se protéger de l'ensoleillement, de la chaleur, si possible qu'elle se rafraîchisse toute seule grâce au vent, grâce à son paysage. Il faut donc aussi limiter l'apport de chaleur, alors en isolant, parce qu'il y a toujours des périodes où en fait on chauffe de trop, puis après hop, ça s'échappe, et puis on diffuse de la chaleur en ville, alors que ça ne serait pas nécessaire dans les périodes intermédiaires, dans les saisons intermédiaires. Il faut qu'on augmente la part de l'eau et des végétaux en ville, et surtout les bosquets d'arbres. Alors pourquoi je dis bosquet d'arbres ? Parce que vous avez entendu sans doute micro-forêt ou des termes comme ça, et en fait c'est des termes qui sont assez faux, fondamentalement. Je n'ai plus en tête à partir de quelle surface on peut parler de forêt, mais c'est assez grand. Et donc on va plutôt essayer de parler de bosquet. En fait il faut enrichir aussi notre sémantique, il faut enrichir nos mots pour décrire ce que c'est qu'un paysage en ville. J'exècre. Mais vraiment, j'exècre, espace vert. Parce que là, moi, je vous mets une peinture verte, là, j'ai un espace vert. Et donc, ça, c'est aussi... Et puis, alors, les fils bleus, les couloirs, les trucs, ça m'insupporte. Mais ça insupporte aussi tous les paysagistes. Hein. C'est vraiment dans la conception, on est... Parce que c'est en fait, c'est un moyen d'encadrer le vivant, de le faire passer pour de la peinture, de la coloration, et pas pour ce qu'il est réellement. Et donc, l'imperméabilisation des sols, on pourrait dire aussi, parce qu'il y a des paysagistes qui n'aiment pas ce terme, des botanistes, notamment une botaniste, Véronique Mur, qui n'aime pas ce terme, qui préfère des sols ouverts, des sols vivants, pas uniquement parler de l'eau passe pas. C'est plus que ça, en fait. C'est les formes urbaines qui permettent de travailler cet îlot de chaleur, donc ce dôme, de le déformer, voire de le briser pour rafraîchir les villes. Et puis ensuite, évidemment, il ne faut pas faire l'inverse, hein. Il ne faut pas partir de l'intérieur de chez soi et définir la ville en fonction de l'intérieur de chez soi, parce que c'est comme ça qu'on a fait et c'est comme ça que ça ne fonctionne pas. Il faut partir du grand territoire et arriver jusqu'à l'intérieur et qu'à l'intérieur, on n'ait presque plus rien à faire. Éviter qu'il fasse trop chaud dans nos bâtiments en ville, c'est d'abord travailler sur la ville. Donc, le grand territoire, grandes échelles, petite taille. Ici, évidemment, tout ça, vous avez, alors je ne les ai pas là, mais vous avez le Centre national de recherche sur la météorologie qui fournit des graphiques sur la question de la chaleur en ville. Mais là, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est une présentation par les étudiants de l'école d'architecture de Grenoble, et donc une manière un peu plus poétique de présenter ce qui se passe sur une place publique au regard de cette chaleur, la température, la lumière, éventuellement un petit peu de vent. Et donc, c'est aussi une manière de mieux comprendre les choses et déjà presque de faire projet, d'apporter des idées, des solutions. Évidemment, si vous avez une place carrée ou rectangulaire avec quatre façades, vous imaginez bien que les quatre façades ne sont pas exposées de la même manière au soleil, à la chaleur, au vent, au bruit aussi. Même dans les graphiques, on peut avoir une représentation graphique agréable pour bien parler des choses et bien le vivre. Alors tout ça, ça date un peu quand même, parce que vous avez entendu parler du Grand Paris. Aujourd'hui, c'est devenu plus qu'un énorme espèce de métro périphérique, etc. Mais à l'origine, le Grand Paris, c'est pas ça du tout. C'est plusieurs équipes pluridisciplinaires qui travaillent sur qu'est-ce que peut devenir, comment on doit concevoir le Grand Paris, hein, ça a déjà 15 d'années, et notamment à la fois de transformer, là c'est la National 7, en un boulevard urbain. Et là, vous remarquerez qu'il y a à la fois plus de logements, mais aussi plus de paysages et une mobilité partagée. Donc, ce n'est pas un combat l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre, ou l'un avec l'autre. Et donc, ils avaient également pensé augmenter la couverture paysagère à l'ouest, nord-ouest, sud-ouest de Paris, puisqu'on sait que dans les forêts, la température sont plus faibles, et donc, les vents, si on sait que les vents dominants viennent de ce secteur-là, de l'ouest, nord-ouest, sud-ouest, ça dépend, et que ces vents-là, en passant au-dessus de cette forêt, se rafraîchissent et pourraient amener de l'air un peu plus frais sur Paris. En conséquence, je vous présente cette question de l'arbre et du végétal en général. Là encore, il faut rentrer précisément dans les termes. On ne le fera pas aujourd'hui, mais il faut penser autant que nous le faisons pour nous. Est-ce que l'arbuste vit bien? Eh bien, quand il est dans une fosse, un peu comme ceux qu'on a un peu sur le parking, là, alors là, ils sont avec des congénères, mais un arbre tout seul dans une fosse toute petite, ben, c'est comme vous, si on vous mettait au milieu d'un parking, comme ça, planté, puis on attend. Non, ça ne marche pas. Il a besoin de vivre. Hein. On a vu les relations des racines, mais aussi les relations au-dessus du sol. Il a besoin d'un tout un contexte d'échange par les racines, de transformation de la matière organique et des nutriments dans le sol pour vivre. Donc, si on veut planter des arbres, il faut aussi se dire, mais est-ce qu'il va bien vivre là? Est-ce qu'il a des potes arbustes, des potes d'une autre essence? Et quand je dis ça, je dis aussi que, en fait, il faut mettre un petit peu fin à ces alignements mono-essence. Voilà. Alors, il y a des arbres pour qui ça ne pose pas de problème, le platane, par exemple, qui est... D'ailleurs, il faut le savoir, le platane est le plus beau parasol. C'est celui qui fournit le plus d'ombrage et avec la meilleure qualité. Donc, et après, il fait plein de choses. Il bloque les poussières, avec son évapotranspiration, il renvoie de l'humidité. Et évidemment, il porte ombre. On voit qu'il y a des deltas de température. Alors, ça dépend des endroits. Enfin, bon, voilà. Globalement, et on le sait, le végétal nous apporte beaucoup de choses à partir du moment où on décide de bien le faire vivre. Alors, les choses ont déjà commencé dans le monde. Là, on est en Asie. On est en plein contexte urbain et vous avez ces arbres. Et vous voyez que ces arbres ont des fougères, ont des arbustes, ont différentes essences. Ben voilà, ils font société. Ils échangent entre eux. Je sais qu'il y a eu un livre là-dessus sur les arbres qui parlent entre eux. Mais on peut le voir d'une manière ésotérique, poétique, mais on peut aussi le voir d'une manière biologique. Et en tout cas, biologiquement, c'est vrai. Ici, c'est à Lyon. Donc, très, très grand travail pour redéfinir les espaces urbains. Et l'idée également d'associer les arbres avec des arbustes ou des endroits où finalement il n'y a pas d'entretien, c'est aussi de minimiser à la fois le coût d'entretien de ces espaces, de favoriser la protection du sol contre l'évaporation, donc de garder l'humidité, et que les arbres et autres arbustes aient plein de potes. Ça, vous retrouverez ça dans des tas d'ouvrages. Francis Allais parle très très bien des arbres. Là, ici, j'ai montré Caroline Molly qui nous parle de l'urbanisme végétal. Donc là, là-dessus, on ne manque pas en France de très bons paysagistes. On pourrait parler de Gilles Clément, hein, qui se pose des questions, qui apporte des solutions et qui sont très, très brillants. J'ai oublié le nom là tout de suite de ce phénomène géologique. Il va me revenir. C'est surtout ce qui est intéressant, c'est que ici, en fait, c'est l'illustration de ce qu'on fait au végétal en ville. Et on dit, c'est un couloir, c'est une place, c'est un parc. Donc un parc clôturé. Et donc, le végétal est pris dans le minéral, pris dans nos constructions. Et là, c'est l'inverse. Alors, c'est quasiment au même endroit, l'érosion n'a pas travaillé de la même façon, etc. Mais ça illustre bien. Un lapiaz, voilà, phénomène géologique, le lapiaz. Et donc, vous avez ici, on doit se dire que maintenant nos villes doivent habiter dans le paysage. C'est-à-dire que les corridors qu'aujourd'hui on donne à l'eau, aux végétaux, et parfois on dit même corridor de biodiversité, comme si on allait dire à un insecte, un oiseau, tu suis le chemin là, mon petit gars, tu sors pas de là. Je sais bien que c'est une grande tendance, mais non, non, c'est plutôt l'inverse, c'est comment nous on construit. On se cantonne, on se met dans des corridors, on construit et on est à l'intérieur d'un paysage qui, lui, est extrêmement vivant et nous apporte tout ce qui est nécessaire pour qu'on vive de manière confortable. Il faut également qu'on accepte la sénescence. Les forêts vivent très bien. D'ailleurs, c'est de plus en plus intégré. Hein, je vous ai dit que je faisais partie de vice-président de Fibois, donc c'est toute la filière bois. Et les propriétaires forestiers ont conscience qu'il faut laisser des arbres morts au sol, parce que là, c'est une explosion de vie qui s'opère à ce moment-là. Et donc, en fait, il faut qu'il y ait mort pour qu'il y ait vie. C'est indispensable. On commence à voir dans certains parcs des endroits où on laisse des branches, on laisse des feuilles pour qu'il se passe quelque chose et qu'en fait, on ait une autogestion, même si le mot n'est pas très joli, mais une vie, voilà. Et donc, tout ça pour dire, hein, je rappelle, aller mettre la main sous un morceau de bois qui est en train de pourrir, alors là, vous allez rencontrer plein de personnes, hein, plein de gens, plein de choses, mais c'est extrêmement frais. C'est plein d'humidité, c'est extrêmement frais. Ensuite, il faut réduire. Et oui, oui, on est parmi d'autres espèces animales, on construit. Et donc, l'idée, c'est comment construire. Est-ce qu'on continue à envoyer des watts, hein, de la puissance, ou est-ce qu'on commence à construire de manière frugale en se disant je prends tout ce que l'humanité a pu faire au moment où elle ne pouvait pas avoir toute cette puissance et donc elle devait développer beaucoup d'imagination et d'intelligence constructive pour limiter l'usage des matériaux et les distances. C'est au moins de reprendre ces fondamentaux-là pour revenir à une construction qui fasse juste ce qui est nécessaire. Alors là, c'était au détour d'une randonnée. Et je ne sais pas, ça serait étonnant qu'un jour, au cours d'une conférence, quelqu'un me dise « c'est moi qui ai fait ça ». Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, pas de chance, c'est comme jouer au loto peut-être. Donc là, quelqu'un a assemblé des branches et ça a fait espace. Assembler des branches, alors je veux dire assembler, mais il n'y a pas de colle, pas de vis, rien. Les pierres sont montées dans ce qu'on appelle la technique de montage des murs en pierre sèche. Donc le fruit, la façon dont on pose les pierres, etc., fait qu'on arrive à maintenir un mur sans liant. Liant, on met tout ce qui est ciment, etc. Décidément, autre pays où on ne peut pas trop aller tranquillo, c'est l'Iran. Et toutes ces... Alors, c'est Badjir, c'est Touravent, c'est Zatravent, qu'on trouve tout le pourtour méditerranéen, côté Moyen-Orient et Afrique. Et ces Touravent, c'est absolument extraordinaire, car c'est un, ce bâtiment-là est patrimoine de l'humanité. Il faut... Tiens, une correction que je dois faire, il faut que je rajoute le nom. Donc on va chercher très haut le vent, parce que le vent est moins freiné lorsqu'il est en hauteur. Et là, ça rentre. Et entre la, évidemment les histoires de différences de pression, on est dans la thermodynamique, eh bien, on a une accélération du vent, ce qui permet de le faire descendre dans le bâtiment et de faire un rafraîchissement. Comme le vent change de sens, en fait, la tour est faite de différents compartiments qui, une fois, peuvent fonctionner en descendant ou en montant, selon le sens du vent. Au sommet de la coupole, vous avez c'est ouvert et l'air chaud peut s'évacuer. Et en même temps, vous ventilez, donc vous avez aussi une bonne qualité de l'air. Nous sommes allés, ce soir, vous avez Madame Vigneron qui va vous présenter un spectacle avec de la glace. Et ben, nous sommes allés pour un voyage d'études dans ce cadre d'architecture et super chaleur, où on a formé des architectes et des paysagistes. Et on est allé voir les glacières en Sainte-Baume. Donc, je ne sais pas qui connaît le massif de la Sainte-Baume, c'est entre Marseille et Toulon, c'est entre Var et Bouches-du-Rhône. Un paysage absolument extraordinaire, un paysage d'ailleurs qui la Etreray qui subit de plein fouet le réchauffement climatique, elle va sans doute disparaître. Et sur ce versant-là, donc à quelques kilomètres à vol d'oiseau de la Méditerranée, en fait, il gèle moins, mais il gelait fréquemment. Et donc, a été fabriquée des glacières. Cette glace était découpée, puis après vendue du côté de Marseille ou du côté de Toulon. C'est que quelqu'un, on a fait un groupe de travail après, on a fait une visite, on a eu des moments de formation, et à un moment, on a eu un groupe de travail, et quelqu'un a proposé en ville, en fait, de faire une tour avant qui refroidirait, ou rafraîchirait plutôt, ventilerait un quartier. Donc, effectivement, on pourrait imaginer une grande tour avant qui irait choper les vents un peu plus haut et qui irait amener un peu d'air sur une place publique qu'on trouve trop chaude ou inconfortable. Le génie de cette civilisation sur les hauts plateaux iraniens, c'est d'avoir associé cette idée dynamique de l'utilisation des vents. Alors ça fait 2400 ans. Donc il n'y a pas un logiciel, évidemment, il n'y a pas d'électricité. Il y a juste du jus de cerveau. Et on peut se demander d'ailleurs s'il en manque pas un peu aujourd'hui. Donc, surtout chez certaines et certains, mais je vais m'arrêter là, parce qu'après je vais dire des trucs dérangeants. Et donc là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont... Il y a tout, c'est de la physique pure, de la physique d'un point de vue de la thermique, pure. L'utilisation dynamique du vent, l'utilisation de l'inertie, donc un système un peu passif, pour garder de la glace. Donc les Yakchal, qui existent donc sur ce haut plateau iranien, c'est absolument extraordinaire. Ils produisent de la glace en faisant venir de l'eau des montagnes alentour. Ça gèle dans des bassins qui sont très peu profonds, donc ça favorise le gel. Ces bassins sont protégés du soleil hivernal. Cette glace entre par une porte hivernale, est stockée dans des volumes très conséquents parce qu'ils se sont rendus compte que plus le volume est petit, plus ça fond vite. Une petite boule de neige fond beaucoup plus vite qu'une grosse boule de neige. Et il y a une porte sud, probablement qu'on venait chercher la glace dans le sud, par cette porte sud. Je n'ai pas trouvé de traces, alors je n'ai pas énormément cherché, je ne suis pas ethnologue ou anthropologue, je n'ai pas trouvé de traces de comment ça fonctionnait. Est-ce que c'est en fonction de ce qu'on avait fait, nous, l'hiver, qu'on avait l'équivalent en glace l'été? Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que c'est une place publique. Voilà. Il se trouve qu'en face de la glacière, il y a aussi un stock d'eau, une architecture un peu équivalente pour stocker de l'eau potable. Et donc, on est sur des places publiques. Ça veut dire que ça avait un rôle très, très important, probablement à l'époque. Donc là, on voit les bassins devant. On voit le mur qui protège de l'ensoleillement hivernal et derrière, la coupole du stock. Ça veut dire qu'ils avaient une connaissance du diagramme solaire. Ils observaient. Je ne veux pas que j'ai... Si mon bassin de congélation ne fonctionne pas si j'ai du soleil dessus. Donc je regarde la couche du soleil, je construis mon mur et ça me protège du soleil. Et tant qu'on ne change pas l'inclinaison de la Terre ni son axe de rotation autour du Soleil, eh ben, ça ne changera pas. Donc se protéger du Soleil, c'est quelque chose d'assez simple et d'assez stable. Je vais même dire carrément stable. Donc là, vous avez un plan. Alors, c'en est une autre. Vous avez un plan. Donc la glacière, sur ce plan, la glacière en bas, le bassin et les canaux qui apportaient l'eau. Et puis sur la coupe, vous voyez une partie enterrée. Donc quand c'est enterré, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'inertie du sol, donc on peut garder la fraîcheur quand même. Et en tout cas, on est moins sujet à la chaleur. La tour avant à droite et le haut de la coupole qui est ouverte pour extraire l'énergie. Là, c'est quand ces glacières sont maintenant des objets de visite, hein, des monuments. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu accéder à des informations. C'est en cherchant des touristes principalement iraniens et qui ont photographié évidemment les plaques et les autres choses d'information. Et puis après, j'ai plus qu'à traduire l'arabe. Ah non, c'est pas moi qui ai traduit l'arabe, c'est Google et ton ami. Donc, après, ça donne un peu des trucs farfelus, faut un peu réécrire la chose quand même. Donc, bref, on retrouve cette fosse et un petit escalier creusé dedans pour aller l'entretenir, puisqu'évidemment, il y a besoin d'entretien. Là, vous la voyez également. Alors, ce diaporama sera à votre disposition. Je vais le faire passer, puisque depuis tout temps que je transmets, je dis qu'il faut transmettre. Je n'ai pas à retenir l'information. Je pense qu'on est dans une situation où il faut tout partager. Et après, on en fait ce qu'on en veut. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un grand travail d'architecture à faire. Hein. On a vu la question urbaine, mais il y a également une question d'architecture. Et ça se dessine, ça s'étudie. On peut encore s'inspirer des architectures d'une autre époque. Là, les atriums in pluvium romains. La pluie tombait au cœur de cet atrium. Cet atrium distribue des pièces. Au milieu, il y a un bassin. Ce bassin a les moyens de se rafraîchir. C'est de l'eau. Quand l'eau s'évapore, elle consomme des calories. Ça fait du rafraîchissement. Vous avez la même chose en Afrique. Et vous avez d'autres formes de patios encore en Amérique du Sud. Et là, ce que vous remarquez, c'est que c'est pas, enfin, à part pour l'Italie, on n'est pas tout à fait dans les mêmes climats que nous. Et c'est là le sujet principal de nos régions, c'est que nous avons encore besoin l'hiver de fermer nos habitats. Quand je dis habitat, c'est ici, nous sommes dans un habitat. En ce moment, nous habitons un lieu. Et donc, nous avons besoin de fermer, nous avons besoin d'un peu isoler, etc. Et en même temps, l'été, maintenant, on a besoin de résister à la question de la chaleur, ce qui, c'est pour ça qu'on a ce thème de recherche. Mais en tout cas, il est fort probable qu'il y ait de plus en plus de patios dans nos architectures et nos villes, puisque le patio, c'est un espace petit qui est fermé à la lumière directe. Et donc, quand ici, c'est un tout petit de mes projets, l'idée de la frugalité, c'est qu'on me pose une question. Là, on est dans un schéma classique de deux personnes qui ont eu des enfants de part et d'autre et qui reforment un couple. Et forcément, ça fait plus d'enfants quand on additionne les deux côtés, même si ce n'était pas énorme. Et donc, il y avait une maison, c'est celle qui est en blanc, qui n'avait pas assez de chambres. Et ils sont musiciens, donc il manquait une salle de musique. Donc, on me demande de faire des surélévations. Et là, je me rends compte en fait qu'ils ont un problème de confort d'été. Parce que leur séjour est fermé avec le rideau, etc. Je me dis, il y a un truc qui cloche. Et en fait, quand je reviens leur proposer le projet, je leur ai dit, on fait ça, mais en même temps, je vous propose qu'en décalant les volumes, etc., en fait, je vais vous proposer quelque chose pour améliorer le confort d'été de votre maison. Et je crois que les pièces fonctionnent très bien. Bon, c'était pas hyper compliqué. Mais surtout, ils sont très, très contents de l'amélioration du confort d'été, ce qui leur permet de laisser le rideau ouvert et donc que le séjour soit éclairé naturellement, tout en étant protégé du soleil. Un endroit, une architecte fantastique, Anna Ehringer, qui est une architecte contemporaine, qui est allemande et qui travaille ici, en Inde. Et donc, elle a proposé, c'est un bâtiment public, on va le voir après, Et donc là, c'est la partie moi qui me plaît le plus, en quelques autres, c'est l'endroit des enfants. Alors je sais que dans notre société actuelle, les enfants, on ne peut pas les laisser tout seuls dans un endroit peinard, mais pourtant, c'est vachement bien. Là, ils sont vraiment contents, c'est un peu frais, il y a un peu de lumière qui rentre, et puis il n'y a pas un adulte pour venir surveiller si tout est bien, qui va bien. Et en même temps, ce bâtiment est un bâtiment public à multifonction. Et cet architecte a travaillé avec les techniques locales, donc de la terre mélangée à de la fibre. Là, vous voyez les bœufs qui sont en train de mélanger la fibre et la terre. Donc, technique locale, architecture malgré tout contemporaine, c'est-à-dire d'aujourd'hui, et connaissance du climat qui est évidemment très singulier. Donc c'est écologie, économie, médiation, éthique, paysage, art, technique. Alors absence de normes et contraintes réglementaires. Ça, on pourrait aussi faire une très grande discussion à ce sujet. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en réutilisant les techniques connues, en les adaptant à une situation contemporaine, à un bâtiment contemporain qui associe école, salle publique, et vous allez voir, après, c'est aussi une grande place, enfin une grande place à l'échelle du village. Et en fait, on transmet des choses aux générations futures, puisque les bâtiments restent quand même assez longtemps. Et on transmet quelque chose aux générations futures. Et évidemment, il n'y a pas d'électricité, etc. Sans oublier la joie et la satisfaction. Donc voilà, là, vous avez aussi une petite traversée du bâtiment pour un accès sans doute public d'un endroit à un autre, les pièces publiques en haut, l'école en bas, etc. Et là, j'invoque, je fais venir Baptiste Morisot, philosophe contemporain, enseignant et chercheur à l'Université d'Aix-Marseille, qui, dans son livre « Raviver les braises du vivant » aux éditions Wild Project, un des concepts qui m'a le plus intéressé, c'est les égards ajustés. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'observation. Il y a mi-décembre, j'ai fait une conférence sur le regard dans le projet. Et là, regard, observation, regard, égard, avoir égard à. Quand je vous dis tout à l'heure, il faut faire attention au végétal, c'est d'avoir égard au végétal, au vivant, mais aussi à nous-mêmes, aux générations futures, égard aux matériaux qu'on utilise, à l'énergie qu'on utilise. Et donc, c'est des égards ajustés, selon Morisot. C'est des alliances interspécifiques. Hein, quand on allie les mycorhizes avec un arbuste qui va avec un arbre, l'arbre avec l'oiseau et les insectes, et nous-mêmes, on est dans des alliances interspécifiques. Et puis, ça nécessite des inflexions. Imaginez que pour ceux qui en disposent, vous ne tondez plus votre pelouse. Alors, vous n'imaginez même pas le changement qui va se passer sur cette partie qui ne sera plus tondue. Hein, parce qu'en plus de couper l'herbe, c'est un génocide d'insectes phénoménal. Mais il va se passer des choses. Alors après, il faut gérer. Allez voir Gilles Clément, vous verrez comment vous pouvez gérer. Parce qu'il y a des moments où on peut garder un petit chemin quand même. Moi, j'aimerais bien aller, sans être dans les grandes herbes, aller à un endroit de mon jardin, je ne sais pas, chercher des pommes, aller au compost, j'en sais rien. Mais en fait, on peut laisser des parties comme ça où le vivant revient. Et ça, c'est d'avoir un égard ajusté à un endroit. Et en plus, si ça vous enlève 500 mètres carrés de pelouse à tondre, ça vous fait du temps pour autre chose. Donc, c'est des renversements de méthode, d'attitude. Il critique aussi tous ces concepts erronés sur l'entretien et sur le agir et laisser faire, sur l'intact et l'artificiel. Sur cette fameuse question du sauvage, je ne sais pas, quand on tond avec un broyeur les bords de route, je ne sais pas qui est le sauvage. Je ne sais pas si c'est le graminé qui a poussé tranquillement ou celui qui a pris la décision d'envoyer un tracteur tout broyé. Et donc, ça doit nous conduire sous une autre forme de relation vivant et au non-vivant aussi un petit peu, pour que tout ça entre en résilience. Et donc, j'ai un autre projet, et il faut que je me dépêche. Vous irez le voir. Donc, c'est un projet qu'on a fait en 2008 avec, pour des scientifiques sur le centre sciences et des techniques d'industrie de la région centre. Et là, vous voyez le bâtiment. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche qui est ici. Le bâtiment est ici. Et ça a été caractérisé par une historienne de l'art comme de l'ana-architecture, c'est-à-dire l'absence d'architecture. Mais au fond, il y a une architecture quand même, c'est-à-dire qu'on habite le site. Voilà, c'est recontextualisé, reterritorialisé. Voilà la coupe du bâtiment, son toit, sa protection solaire, à la fois architecturale, végétale. Je leur ai dit, ne coupez pas les tilleuls qui sont à l'est du bâtiment. La toiture, quand il neigeait encore. Et donc, après, compenser par l'intelligence collective, la transdisciplinarité, la transgénération, c'est-à-dire entre les générations, et des solutions efficaces, résilientes, existent, sans le besoin de rupture technologique, j'ai dit tout à l'heure. Hop là, le vent. Eh bien oui, en ville, il se passe plein de choses avec un bâtiment, plein d'effets de vent. Et donc, c'est intéressant. On peut fabriquer aussi dans des endroits où on ne peut peut-être pas végétaliser, planter des arbres. On peut mettre des parasols, c'est à Séville. Des parasols qui sont des architectures. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire systématiquement, mais il faut imaginer que c'est un des possibles. On peut être aussi comme en Australie, à Sydney, fabriquer un bâtiment qui propose à la fois de... Alors, la façade, là, ici, c'est une façade là, qui est refermée parce qu'il y a du soleil, donc le soleil du nord, puisque nous sommes dans l'hémisphère sud. Il y a une lame d'air, il y a un rooftop qui est végétalisé, il y a des éoliennes qui tournent, et ces éoliennes multidirectionnelles ont aussi l'avantage de... hop là, sur le dessin de droite, c'est qu'elles tirent l'air, et donc elles ventilent le bâtiment en tirant l'air, donc d'une manière quasi, enfin, presque naturelle. Vous avez aussi ces chaussettes qui ont été conçues pour évaporer de l'eau, et l'eau rentre dans un système comme une pompe à chaleur, sauf qu'à chaque fois, vous réutilisez l'eau, mais l'eau est refroidie par le fait de l'effet de adiabatique, c'est-à-dire le refroidissement de l'air par la consommation des calories. Et donc, ces chaussettes-là, bah, voilà, elles sont sur la rue, hein, comme vous voyez ici. Donc, encore une fois, une autre culture de faire des bâtiments, d'apporter des objets, dont là, la chose est de juste faire du naturel. Il y a juste une... Alors, il y a quand même une pompe qui amène l'eau et qui fait circuler l'eau, mais après, le refroidissement est naturel. Donc ça, c'est fonctionnement de jour. Il y a de la complexité hein, de ce bâtiment. Refroidissement de nuit. On n'est pas en avance hein, en France. Hein. Les Anglais, je vais prendre que parce qu'on tape un peu sur les Anglais, hein, c'est un peu normal. Non, c'est pas normal, pardon, excusez-moi. On tape aussi sur les Américains, c'est pas normal non plus. Mais en fait, ils sont loin d'être derrière nous. Et c'est très loin, ils sont même plutôt devant. Et alors, je ne vous parle pas des pays nordiques. La question des parois exposées au soleil, ça peut aussi se résoudre en fabriquant une double paroi dont on pourra trouver toutes les formes architecturales et toutes les matières possibles. Cette double paroi, c'est elle qui prend. S'il n'y a pas un ombrage autre, végétal, c'est elle qui prend le soleil et qui protège l'enveloppe thermique et donc de l'échauffement. Si, avec de la brique, on peut faire des tas de choses, notamment, etc. Ça peut être intéressant. Et donc, il faut poursuivre le récit architectural et paysager. Il faut donc évoluer pour s'adapter et préserver, mais pas n'importe comment. Il ne faut pas de nostalgie sclérosante. Il faut... on peut déconstruire et reconstruire. C'est pas gênant, ça me semble pas gênant, la frugalité, j'en ai parlé, etc. Et ce qui est intéressant dans les fouilles archéologiques, c'est qu'on voit bien, et notamment il y a le site dont je parle là en bas, à Ivry-sur-Seine, on voit bien que sur 4200 ans, en fait, il y a des hommes qui ont habité, puis après ils sont partis parce qu'ils avaient tout consommé, puis après ils sont revenus, puis après ça a été inondé, du coup ils sont partis, puis après ils sont revenus. En fait, on a toujours fait ça. Donc il n'y a pas de raison qu'on s'arrête de le faire, parce que je ne sais pour quel concept de conservation des choses. Et donc, ça revient un petit peu à l'image du tout début. toutes les arborescences, les bordures et les lisières, ce que l'on fait là quand on se rencontre, c'est une forme de bordure, de lisière, on est en contact les uns les autres, on échange, et on se pose des questions, et évidemment, chaque fois qu'on a une interaction, ça en amène une autre, etc. etc., etc. Indispensable pour... Voilà. Et donc, ça pique. Et oui, ça pique. Et ça sera cette dernière image. Ça pique, mais ça peut être très bon. Hein, petite soupe aux orties, ça peut être très bon. On peut même mettre aussi de l'ortie dans un cake. Donc ça pique, mais ça peut être bon. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie beaucoup. Et je suis à votre disposition pour échanger.
Bonjour. Oui, j'ai acheté une petite maison sur Blois dernièrement et j'avais la volonté d'aller un peu vers une maison passive. Et je me suis mis en devoir de chercher un architecte dans la région pour m'aider. Alors, j'ai eu connaissance notamment du réseau Architecteur sur Paris qui fait beaucoup de. Il parle beaucoup de perm-architecture en faisant un parallèle avec la permaculture à base de pisés, de terre crue, etc. Ils n'ont pas de représentants dans le 41, ni même dans la région. Les autres architectes que j'ai pu trouver proposent des techniques extrêmement classiques, donc doublage avec du placo-plâtre, de laine de verre, enfin, des choses qui empêchent la maison ancienne de respirer, par exemple. Où s'adresser pour mettre en pratique les bonnes choses que vous venez de nous indiquer? Où trouver donc des hommes de l'art qui s'y connaissent dans ce domaine?
Bon, alors je ne vais pas vous donner de nom. Vous pouvez déjà aller sur le site de la Maison Passive France. Et là, vous trouverez les gens qui en font. Vous pouvez appeler la Maison de l'Architecture l'équipe. Donc, ça ne sera pas moi, ça sera l'équipe. Ils ne sont pas architectes. Du côté de Tours, il y a quand même des compétences, hein, je dirais. J'ai envie de dire, c'est comme les boulangeries. Vous voyez ? Vous allez dans une boulangerie, oh non, le pain au chocolat, pas terrible. Eh ben, faut essayer. Il faut prendre rendez-vous, il faut discuter avec différents architectes. Alors, c'est vrai que ça peut prendre du temps. Et à un moment, vous trouverez sans doute quelqu'un avec qui ça va coller. Et c'est aussi des questions intellectuelles, évidemment, mais c'est aussi une question de relation, de physique. Il faut vraiment faire ce travail-là. La maison passive, ça, c'est très bien. Ou sinon, essayez de me contacter en direct. Je pourrais vous dire éventuellement. D'autres questions? Alors, attention, à la maison passive, on est obligé d'isoler, mais il faut être extrêmement prudent quand on fait ça sur comment ça transforme un bâtiment et peut le rendre moins bon pour l'été. Donc on a commencé à avoir plein de cas de problématiques là-dessus.
Si j'ai bien compris, il y a des solutions techniques qui existent, mais je pense qu'il faut quand même de la créativité. Et je voulais savoir, selon vous, quels sont les facteurs pour développer la créativité, en particulier auprès des architectes et des étudiants et des élèves qui sont les futurs architectes et designers de demain.
Alors, en école d'architecture, il y a déjà un travail important qui est fait. Il y a beaucoup, depuis qu'il y a un parcours doctoral qui est beaucoup plus développé en école d'architecture, en plus on a de la recherche là-dedans. Donc, ça avance. Dans le paysage, la même chose. Ça avance très, très vite. Dans les consoeurs et confrères qui sont actuellement en fonction... c'est un peu la question que vous m'avez posée, c'est un peu plus compliqué. Alors sachez qu'il y a une obligation de formation des architectes qui veulent conserver la possibilité de construire, qui est de 20 heures par an. Donc c'est pour ça que je forme mes consoeurs et confrères. C'est pour avoir notre petit tampon. Tu t'es bien formé, donc tu restes au courant des évolutions sur ces sujets-là. Néanmoins, il y a des architectes qui choisissent leur, évidemment, quand même, leur sujet de formation. Alors, comme ça revient vite, l'avantage, c'est qu'au bout d'un moment, il faut se diversifier. Mais au début, c'était beaucoup sécurité incendie, des choses de genre. C'est-à-dire que le domaine est assez large dans l'architecture, on touche plein de choses. Donc, on a quand même un gros paquet de formations. Donc là, effectivement, c'est les générations actuelles où c'est peut-être un peu plus compliqué. Il y a même peut-être des positions idéologiques un peu fortes. Et c'est pas simple. Et on a aussi nos consoeurs et confrères architectes du bâtiment de France, où c'est pas simple non plus. Donc voilà. La créativité, absolument. Une fois qu'on a observé, une fois qu'on est en maîtrise des sujets physiques qui nous concernent, donc cette suprachaleur, le froid, le rayonnement solaire, le vent, qu'est-ce que je peux oublier, bref, le vivant même, la biodiversité. On a tout ça, hop, ça mijote, on a un projet, un programme, des clients, publics ou privés. Et là, d'un seul coup, toc, normalement, on doit pouvoir être en mesure, le territoire, on doit être en mesure de proposer un projet qui montre de la créativité. Normalement, on ne peut pas avoir le même hôpital, la même mairie, la même piscine, je sais, la même maison partout dans le territoire de France. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que même, on pourrait même dire dans un espace réduit, un flanc de coteau, un petit bout de vallée de la Loire, du Vendômois, etc., même à 500 mètres d'écart, normalement, ce n'est pas la même architecture. Voilà. Et les scénarios, si je rajoute à ça les scénarios qui ont été qui sont à disposition, faits par Météo France sur le dérèglement climatique qui s'opère pas de la même façon à Dunkerque, on l'a vu malheureusement, à Brest, à Toulon, en montagne, où le réchauffement est beaucoup plus fort qu'ailleurs, ou à Biarritz. Encore une fois, et encore plus, ça dit, ce n'est pas les mêmes architectures. Ça ne peut pas être les mêmes architectures, puisque les questions sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Donc normalement, oui, créativité, je dirais même plus à fond. Au moins, si on peut tirer quelque chose de positif de cette affaire-là, c'est peut-être ça.
Merci. J'ai juste envie de faire une réflexion, c'est qu'on voit qu'il y a besoin de modifier les villes de façon importante. Et on n'a pas l'impression, quand on voit les constructions, qu'aujourd'hui, on est dans des modifications comme ça, quoi. Et le réchauffement, il arrive quand même très vite. Donc voilà, il y a besoin de modifier rapidement. Et là, vous parliez des arbres, quand je vois tout ce qui est coupé comme arbre à blois ou ce qui va être encore coupé, enfin, tous ces trucs-là, la pousse qui est tondue, le rond-point Médicis qui, depuis un an, est sans arrêt, enfin, tous les 3-4 jours, il tonde, je me dis, c'est une aberration. Alors je me dis, on pourrait peut-être faire sur ce grand rond-point une tour de refroidissement. C'est une bonne idée, je vais suggérer à la ville de Blois.
Vous avez posé la question et vous avez apporté la réponse. Les élus ne feront rien sans la pression populaire. Si vous êtes suffisamment nombreux pour dire bon, maintenant on arrête de tondre, ça suffit là. En tout cas, à cet endroit-là, ça n'a pas de sens. Et ben voilà, il faut l'imposer. Parce qu'eux, ils se disent que c'est toujours, on est dans un système où il faut entretenir. Parce que si tu entretiens, notez bien, hein, si tu n'entretiens pas, vous savez, entretenir sa maison, etc., ça renvoie à des valeurs, ça. Hein, si tu le fais pas, ça veut dire que tu n'es pas un bon père de famille. Donc voilà, c'est des valeurs qui sont ancrées. Si on ne les bouscule pas, si on ne les change pas en disant « Mais écoutez, moi je suis un bon père de famille, je préserve le vivant. » Voilà, il faut renverser les concepts, il faut renverser les choses pour que ça bouge. Mais eux ne le feront pas d'eux-mêmes. Il faut réellement qu'il y ait une poussée démocratique très très forte, et je dirais presque de l'intérieur. Faut pas. Il me semble que le changement de paradigme nécessite que de ne plus attendre rien du tout du sommet de la pyramide. Il faut faire tout par le dessous. Et éventuellement, après, ça remonte. Voilà. Parce que, bon, je crois que vous l'avez encore vu. Enfin, moi, je n'ai même pas regardé, mais j'ai vu quelques critiques. Il ne va rien se passer en venant du haut, ça, c'est certain. Donc, alors, là où il faut vraiment être confiant et positif et participer, c'est que quand même, quand vous prenez la réglementation environnementale 2020, il y a des choses. Il y a des choses. Parce qu'en fait, il y a des tas de gens qui bossent et qui mettent des choses. Puis après, quand ça remonte, y a des gens, ça n'intéresse pas parce que c'est leur carrière, parce que c'est être élu. Et donc, en fait, ils ne s'en occupent pas, ils ne comprennent pas. Et donc, ça passe. Donc, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Il faut proposer à y aller. Et puis, voilà. Soit ils ne comprennent pas et ça passe, soit ils comprennent, ils disent « Ah, dis donc, c'est ça qu'il faut faire !» Et hop, ils le font. Ouais, moi, cette idée-là, c'est que c'est nous qui sommes moteurs de cette affaire et ce n'est certainement pas le haut de la pyramide ou le fameux premier de cordée.
La réglementation environnementale, où est-ce qu'on peut trouver ce dossier ou ce document?
Alors, vous pouvez avoir des résumés, évidemment, en cherchant sur Internet, dans différents sites gouvernementaux, probablement ce qui était le ministère de l'écologie, de la transition, je ne sais pas comment il s'appelle maintenant, ou s'il a été absorbé, je ne sais pas, par le ministère de l'Intérieur, par exemple, parce que comme maintenant on fait des trucs un peu bizarres. Sinon, eh bien, sur Légifrance. Mais alors là, c'est 3000 pages, madame, là, donc, avec toutes les équations pour quelqu'un. Donc là, non, c'est pas un bon conseil à vous donner. Mais par exemple, vous avez entendu parler qu'on va arrêter d'artificialiser les sols, la fameuse loi ZAN, qui fait partie de la loi plan climat, etc. Encore une fois, pour vous dire qu'il y a quand même des choses qui se font. Voilà. Eh bien là, vous avez des décrets qui sont parus. Alors d'abord au printemps 2023, puis après les sénateurs, ces vieux machins-là, ils se sont dit « Oh non, c'est pas bien, on peut plus construire. » Alors donc, ils sont revenus. Et finalement, il y a les derniers décrets qui sont arrivés à l'automne et qui nous disent comment on considère qu'un sol est artificialisé, donc anthropisé, c'est-à-dire qu'il y a une action humaine très forte qui fait que sa renaturation va être compliquée, ou il est disponible à l'agriculture, donc nourricière. Hein. Et à ce moment-là, faut pas construire dessus parce qu'on en a besoin. Voilà. Donc ça, il y a des décrets. Alors celui-là, il n'est pas très long, hein, c'est 2-3 pages. Il est beaucoup plus compliqué que le premier, que les premiers qui étaient sortis en mars. Mais il n'y a que comme ça qu'on peut bien comprendre, parce que l'inconvénient d'aller sur des sites, c'est quelquefois, ils ont c'est une personne qui vous livre sa lecture des textes ou une personne qui vous livre sa lecture de la loi qu'il a lue de quelqu'un qui l'avait lue. Et à la fin, on ne sait plus très bien. Donc c'est aussi ce que je dis beaucoup à mes étudiants, c'est notamment sur la réglementation, aller lire les textes parce que c'est là où on a ce qu'on doit vraiment appliquer. Et parfois, c'est beaucoup plus libre qu'on ne le pense. Alors la RE 2020, elle est applicable pour tous les permis de construire. Voilà. Donc il y a des petites règles, etc. Quand vous faites de la réno, si vous faites juste une petite extension, elle n'est pas applicable. Mais vous pouvez en reprendre les fondamentaux, hein, si vous voulez faire mieux, évidemment, évidemment. Eh bien, merci beaucoup. Oui. Vous avez été merveilleuse et merveilleux. Et c'était très chouette d'être là. Merci.